Le royaume éternel de Dieu, étude numéro 144. Ce document d'étude traite du résultat final et de l'objectif du plan de salut. La cité de Dieu est expliquée, entre parenthèses, voir aussi le document d'étude de la cité de Dieu numéro 180, et la signification spirituelle est identifiée. Le déplacement de Dieu dans ce système planétaire nécessite une réorganisation de la structure administrative de l'univers. Cette question est examinée. La véritable signification et le but du royaume de Dieu est de mettre fin à toute la folie de ce monde. Dans l'établissement du royaume éternel de Dieu, cet univers sera remis dans l'état où il se trouvait avant la rébellion, mais dans un état avancé, en y incluant la structure humaine achevée. Nous avons déjà parlé en détail de la rébellion de l'armée, et de la façon dont un tiers de celle-ci s'est rebellé et a détruit de nombreuses parties de l'univers et les systèmes terrestres, nécessitant ainsi une recréation. Nous avons traversé les 6000 ans, et nous sommes maintenant à la fin de ces 6000 ans de limitation du pouvoir de Satan. La phase suivante que nous allons traverser est celle des 1000 ans qui conduiront à la résurrection des morts. Dans la résurrection générale, après nous être occupés de l'élément spirituel, nous nous occuperons de l'élément humain de la création et nous amènerons cet élément à une compréhension et de là à la vie éternelle. Voir la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc numéro 143b. Nous briserons alors chaque aspect du pouvoir des démons, toute autorité et toute loi sous lesquelles ils ont été établis et chaque système de gouvernement qui a été établi dans l'univers. Cette planète n'est pas le seul endroit où les démons avaient du pouvoir. L'univers a été partagé, entre parenthèses divisé, en grands cadrans ou régions, chacun ayant reçu des pouvoirs sous le conseil des Elohim. Les démons étaient confinés à la Terre pour qu'ils puissent être jugés. Sous les 70 membres du Grand Conseil, chacun d'entre eux a reçu une nation afin que Dieu puisse s'occuper d'eux. Voir Deutéronome 32, versets 8 à 9. Il y avait 70 nations et 70 membres sur le conseil extérieur des Elohim. On leur a confié la responsabilité de ces nations afin qu'ils puissent entrer en jugement. Le Sanhédrin est un miroir du conseil céleste et ce miroir compte 70 membres et 70 nations étaient placées sous ces gens. La Bible a été changée, tout comme sa compréhension dans le texte massorétique, pour cacher cette étendue, ce pouvoir. Il y a beaucoup de signification dans chacune des phrases qui traitent des puissances. Par exemple, dans ce simple commentaire énigmatique de 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, où nous lisons « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Ce concept est celui que Jésus-Christ a détruit tout ce qui est en opposition à la volonté de Dieu. Ensuite, Christ remettra le royaume à Dieu. Verset 25, car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le règne de Christ est donc une période conditionnelle ordonnée par Dieu afin de subjuguer les puissances terrestres et célestes en opposition à Dieu. Ce n'est pas une période déterminée de manière aléatoire. Dieu, dans son omniscience, a dit que nous régnerons pour atteindre cette fin. La structure millénaire est une période de repos spécifique qui se traduit en fait par le processus d'un travail continuel pour le sacerdoce. En effet, le sacerdoce fait plus de travail le jour de repos du sabbat qu'à tout autre moment. Au jour du sabbat, il y avait plus d'animaux abattus et le sacerdoce a accompli plus de travail qu'à tout autre moment durant la semaine. Le jour de repos du sabbat n'est pas un repos d'activité, c'est un repos du travail. L'activité du sabbat est dirigée à faire la volonté de Dieu et à l'adoration de Dieu. Voir le document d'étude Le Sabbat, numéro 031. Le millénium, entre parenthèses le millénaire, n'est pas un repos dans le sens où il s'agit d'un arrêt du travail. Le sacerdoce travaillera davantage à ce moment-là. Ce sera leur période de travail. La raison pour laquelle les sacrifices ont été établis comme ils l'ont été était pour souligner le fait que le jour du sabbat, nous fassions plus de travail. C'est à ce moment-là, dans le millénium, que notre travail commencera. Le millénaire sera un processus d'activité constante faite par le sacerdoce afin de préparer la planète à l'adoration de Dieu et à la subjugation des puissances spirituelles, et ce, afin que tout puisse être retourné à Dieu. Verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cette déclaration dénote la cessation de toute vie physique. La mort a seulement de sens que par rapport à l'existence physique. La mort n'a aucune signification quand on est mort. C'est un concept qu'un mort ne possède pas. Quelqu'un d'autre a ce concept à propos de la personne décédée. Quand nous serons ressuscités et deviendrons des êtres spirituels, personne ne peut physiquement avoir un concept sur la cessation de notre activité. On nous accorde la vie éternelle, on nous donne l'immortalité de Dieu qui accorde à tous la vie. Nous sommes alors tous vivants en tant qu'esprit. Il y a une existence qui est continuelle. Logiquement, l'activité physique par nécessité doit cesser d'exister pour que la mort cesse d'exister. Cela nous dit qu'il n'y aura aucune existence physique. Nous poursuivons verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Dieu a soumis toute chose sous Christ. Évidemment, lorsque nous mettons tout sous quelqu'un, nous ne nous mettons pas sous lui. Nous ne déléguons pas notre propre autorité sous lui. Autrement, il n'y a aucun concept de délégation. Nous voyons donc l'irrationalité de la Trinité. Paul dit très clairement que Dieu a placé toute chose sous Christ, mais que Dieu est lui-même à l'extérieur de ce système. Dieu n'a pas placé Christ au-dessus de lui, mais au-dessus de toute la création. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Version 8 second. Il est évident que le Fils est soumis au Père. Par conséquent, la coégalité n'existe pas. Christ va ici être soumis à Dieu. D'où l'inconvénience logique de la position trinitaire. Le terme traduit « que Dieu serait tout pour chacun » dans la version de la Bible RSV vient en fait du mot grec « panta en pasin » qui signifie « tout en tous ». Nous voyons donc dans Éphésiens 1 que cela est fait pour que Dieu puisse devenir tout en tous à travers l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui permet à Dieu d'entrer et de devenir un avec Christ, comme il en est de même avec nous. Sans l'Esprit Saint, Christ ne pourrait pas ne faire qu'un avec Dieu et ne pourrait pas réaliser son pouvoir et son autorité. Ainsi, l'Esprit Saint est le mécanisme par lequel Christ exerce la puissance et l'autorité. Christ n'a pas créé l'Esprit Saint. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui donne le pouvoir à Jésus-Christ, et c'est pourquoi Jésus-Christ et nous sommes des cohéritiers de la puissance de Dieu. C'est encore une fois la raison pour laquelle la Trinité occidentale sous le catholicisme romain est incorrecte. La Trinité orientale n'affirme pas cela. Le trinitarisme a plusieurs aspects. Les trinitaires orthodoxes affirment que l'Esprit Saint procède du Père seulement et non du Fils. Les trinitaires occidentaux affirment que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ce fut la raison du schisme en l'an 1054 de notre ère. Ce schisme était tout à fait correct. Les Grecs ont vu que même pour la Trinité, c'était totalement absurde. L'Esprit Saint procède du Père seulement et donne le pouvoir à tous les fils de Dieu. Nous développons toute la race humaine dans une relation avec Dieu, et ce en lui donnant l'Esprit Saint, et en lui donnant la capacité d'entrer dans un processus de correction et de jugement afin de parvenir à la perfection. Une fois que le pouvoir des démons aura été brisé et que les démons auront été corrigés et que toute l'armée aura reçu ses nouveaux pouvoirs sous Jésus-Christ et sous nous, le tout sera de retour sous la volonté de Dieu. Les démons ne seront plus externes à la volonté de Dieu. Le système ne fonctionnera plus à l'extérieur de la volonté de Dieu. Nous serons de nouveau sous la volonté de Dieu, et le monothéisme sera par conséquent intact. L'Esprit Saint sera alors revenu en tous, ce sera alors un système entièrement sous la volonté de Dieu. Il n'y aura aucun polythéisme et l'univers sera alors dans une relation harmonieuse. Quand cela arrivera, nous serons en mesure de remettre le royaume à Dieu. Dieu sera en mesure de venir sur la terre et y transférera l'administration de l'univers. Il est impossible d'administrer l'univers d'une façon harmonieuse quand il y a de la discorde sur la planète. Le chaos doit être éliminé avant que Dieu ne puisse transférer son gouvernement ici. Pour l'instant, l'administration de l'univers présentement n'est pas dirigée depuis cette planète. mais l'administration de l'univers viendra sur cette planète. La terre entière sera alors pleine de sa gloire. Voir Ésaïe 6, verset 3. Et Dieu et l'agneau seront les lumières du système. Voir Apocalypse 21, verset 23. Ce processus en est un qui se poursuit tout au long du millénium et des résurrections. Et à la fin de ce processus, il y aura une nouvelle création. Nous lisons dans Ésaïe 65, verset 17 à 18. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Version 8 secondes. La structure administrative opérera à partir de Jérusalem, mais ce sera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Autrement dit, cette terre telle que nous la connaissons sera détruite. Cette terre sera dans un état tellement lamentable d'ici la fin du jour du Seigneur qu'il n'y aura plus aucun poisson dans les mers. Il n'y aura plus aucun arbre. Très peu d'animaux auront survécu et les oiseaux se gaveront des millions de cadavres de cette planète. Cela nous indique qu'elle devra être reformée. Elle sera purifiée par le feu. Il n'y aura plus de mer. Dans la nouvelle création, sous la nouvelle Jérusalem, les mers seront enlevées. Ésaïe 66, versets 22 à 23, nous lisons « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Version du second. Les nouvelles lunes et les sabbats sont des jours d'adoration. Cela nous indique un certain nombre de choses. Le concept des nouvelles lunes et des sabbats subsistera, avec les fêtes, en tant que période obligatoire d'adoration dans toute la structure entière. Il en sera certainement ainsi tout au long du millénium, mais cela parle aussi d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Les périodes d'adoration de l'Éternel se poursuivront donc de différentes manières, mais les concepts de périodes réglementées de nouvelles lunes et de sabbats subsisteront. Si quelqu'un nous dit « Vous n'avez pas à observer le sabbat » ou « Vous n'avez pas à observer les nouvelles lunes », dirigez-le à Ésaïe 66 et Zacharie 14. Nous leur montrerons très clairement qu'ils doivent faire ces choses. Il est évident que le Messie les continuera. Voir les documents d'études, les récoltes de Dieu, les sacrifices des nouvelles lunes et les 144 000, numéro 120, les nouvelles lunes numéro 125, et les nouvelles lunes d'Israël, numéro 132. La descente du ciel. Nous lisons dans Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Version 8 secondes. Christ écrira le nom de son Dieu sur les élus. Dieu le Père est donc le Dieu de Jésus-Christ, comme nous le savons d'après Psaume 45, verset 6 et Hébreux, chapitre 1, verset 8. Christ a écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs, et il porte le nom de son Dieu. Quand les gens nous verront, ils diront Elohim, et que nous portons le nom de Yahovah, entre parenthèses, Jéhovah. Cela semble être un concept extraordinaire. Quand ils nous verront, ils diront oui, Elohim. Oui, Dieu. Nous serons les juges du nouveau système. Voir le document d'étude Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Jésus-Christ dit clairement, cette période étant postérieure à sa résurrection, que ceux qui sont fidèles seront faits des colonnes dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu est donc un édifice spirituel et non un édifice physique. Dieu sera en chacun de nous, et quand nous parlerons, ils sauront que l'autorité de Dieu parle à travers nous. C'est la raison pour laquelle ils nous traiteront en tant que des Elohim. Nous serons comme Dieu, parce que nous parlerons pour Dieu. Quand vous parlez pour Dieu, vous ne faites pas d'erreur, si vous avez la crainte de Dieu dans la manière dont vous exercez votre autorité. Ces colonnes du temple de Dieu, qui sont l'église de Philadelphie, sont la structure la plus forte, solide, du temple. La structure repose sur des fondations, et les fondations la maintiennent stable, tandis que les colonnes sont les principales colonnes de soutien et maintiennent le temple en place. Bien qu'elles soient les plus petites et représentent peu de colonnes, ceux de l'église de Philadelphie sont la structure la plus solide du temple. Ils gouvernent de la même façon que l'église de Thyatire gouvernait les nations avec une verge de fer. Ils règnent dans le royaume de Dieu avec les promesses faites aux Laodiciens, voir Apocalypse 3, verset 20 à 21, ceux qui auront survécu, car très peu d'entre eux prennent leur place. Les Philadelphiens exercent tous les pouvoirs de toutes les ères, car ils sont les structures les plus fortes du temple. Le concept de « ne plus sortir » signifie qu'ils sont placés là et qu'ils ne seront plus jamais enlevés comme ils l'étaient auparavant. Voir le document d'étude Les Colonnes de Philadelphie, numéro 283. La Nouvelle Jérusalem est la cité de Dieu, qui descend et entre dans la création, et laquelle est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1 à 5, nous lisons « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » La création ne restera pas comme elle l'est, elle sera détruite par le feu, et toute trace d'habitation humaine sera enlevée. Dieu n'a pas nécessairement besoin que les mers subsistent. En tant qu'êtres spirituels, nous n'aurons pas besoin des mers et de l'eau pour l'existence, car nous serons au-delà de ce processus physique. Verset 2 « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Il existe deux concepts de la fiancée. Un est l'Église en tant que fiancée, l'autre est la Nouvelle Jérusalem en tant que fiancée. Il y a unification des armées célestes et terrestres. La cité de Dieu descend du ciel, et nous formons le temple qui siège dans la cité de Dieu. Nous avons des édifices spirituels. Toute la cité de Dieu est un édifice spirituel. Les anges constituent cette cité de Dieu. Si on examine les dimensions de la cité de Dieu, elles sont 12 000 stades ou 2400 km. Certains disent 1500 miles. Un stade est environ 200 mètres ou verges. En d'autres termes, c'est un grand cube. Mais ses dimensions sont allégoriques. Le temple de Dieu ne se dresse pas comme des blocs empilés les uns par-dessus les autres. C'est un lieu où Dieu vit en nous. Et nous, dans la cité de Dieu, nous sommes entourés par les anges, qui forment les briques de la cité de Dieu. Voir le document d'étude de la cité de Dieu, numéro 180. Nous sommes tous des pierres vivantes. Et les dimensions sont allégoriques, pour nous montrer l'ampleur grandiose de l'armée céleste formant la cité de Dieu. Quand on la réduit à des dimensions physiques, aucune de ces dimensions n'est comprise. Elles sont exprimées en termes physiques afin que nous comprenions qu'il y a 6 niveaux dans la nef du temple, de sorte que nous traversons les 6 étapes du système du jubilé jusqu'à la 42e année. La dernière étape, qui est le temple proprement dit, et celle où nous entrons dans le temple, dans notre dernière phase, et où nous pénétrons dans le Saint des Saints, le jour d'expiation, à notre 50e ou année de jubilé. Ils ont construit une chose physique pour nous expliquer ce qui va se passer pendant les 50 ans de notre vie humaine, si nous sommes sous le système de Dieu. Donc, une fois que nous comprenons les choses physiques, nous comprenons la signification de tout cela. Nous ne serons pas 6 couches d'êtres humains empilés les uns sur les autres. Le concept se rapporte à nos 6 couches de vie, l'une suivant l'autre, pour nous préparer à entrer dans le Saint des Saints durant la dernière phase de notre appel. Certains ne sont pas soumis à un délai de 50 ans. D'autres sont appelés tardivement et ne reçoivent pas la phase complète. Nous sommes donc appelés à un moment où nous pouvons entrer en jugement pour atteindre ce niveau. Nous entrons de sorte que nous ayons suffisamment de temps pour nous qualifier. Il se peut que nous soyons appelés sans avoir à faire tout le processus en entier, parce que nous avons suffisamment de qualités avec lesquelles Dieu peut travailler dans la dernière phase pour nous placer dans le Saint des Saints. Il se peut que notre appel ne dure qu'un an ou environ. Nous pourrions être baptisés dans la dernière phase du temple et être sur le point d'entrer dans le Saint des Saints, ce qui est la cité de Jérusalem. Quand nous serons tous placés dans la cité descendra du ciel. Et la cité entière sera composée d'anges vivants. Nous serons placés à son centre en tant que gouvernement de Dieu. C'est la véritable compréhension de la Nouvelle Jérusalem. Ils sont alors tous parfaitement intégrés ensemble et il n'y a plus aucun conflit. Le temple qui est les élus est placé au centre de la Nouvelle Jérusalem. Dieu et l'agneau sont la lumière de ce temple et ils illuminent la cité. L'esprit s'écoule comme une rivière vers la cité. Et toute la cité entière reçoit l'eau à partir du temple qui est Dieu. Cet Esprit Saint qui constitue l'eau qui nous alimente et qui maintient la cité ensemble. Ce processus de la cité de Dieu qui descend du ciel fait en sorte que toute l'armée humaine est alors intégrée, entre parenthèses construite, dans la cité de Dieu. Nous qui sommes dans la première résurrection, nous sommes là en tant que temple de Dieu dans la cité. car toute la cité entière sert de point de convergence pour le temple dans lequel Dieu réside, temple que nous sommes. Cependant, dans la cité de Dieu, toute la cité entière est le temple, parce que tous sont dédiés, entre parenthèses, consacrés à Dieu. Il y a une distinction entre le temple d'aujourd'hui et la cité du futur. La cité est le produit final de tout ce temps. Nous allons donc au-delà de ce processus. Nous sommes tous préparés pour épouser Jésus-Christ, et ce pour nous intégrer dans ce système afin que nous fassions partie de la structure gouvernementale. Nous allons tous être l'épouse de Christ et les fils de Dieu. Comment pouvons-nous devenir fils de Dieu et l'épouse de Christ? Nous le pouvons et le serons, car ce sont tous des concepts allégoriques. Nous sommes tous préparés pour que chacun soit remis à Dieu. Voir le document d'étude de ciel, l'enfer ou la première résurrection, numéro 143a. Jésus-Christ créera de nouveaux gouvernements et de nouvelles autorités, de sorte que la nouvelle Jérusalem et l'armée céleste soient coordonnées avec nous, les élus, en tant que l'épouse de Christ. Une nouvelle structure de gouvernement sera formée. Il y aura de nouveaux ordres de gouvernement dans les cieux. Un nouveau conseil des Elohim sera formé. Il y aura un nouveau conseil extérieur des 70, en fait, les 70 plus 2, se référer à Luc 10, verset 1, dans la version interlinéaire de la Bible. Un nouveau conseil extérieur des 120, 300 et 500 sera formé, et les ordres seront étendus jusqu'aux 144 000. Des rois et des sacrificateurs seront nommés, et ils recevront des autorités et une création spirituelle, ainsi que des régions et des responsabilités. Chaque nombre d'ordinations faites par Jésus-Christ, en commençant par les 12 apôtres, aux 3000 jusqu'aux 144 000, a une signification et une relation avec le gouvernement de Dieu. Rien n'est accidentel. Ces nombres ont tous rapport au sacrifice au cours des siècles, qui constitue la période entre les événements de Christ. Les élus sont amenés dans le temple en guise de sacrifice. Ces éléments constituent alors la structure gouvernementale et la puissance de Dieu. Les nouveaux 1000 sont constitués des 70, 120, 300 et 500, les 10 chandeliers faisant le total. Voir Job 33, versets 22 à 23. Les élus exercent l'administration de la même manière que les empires du monde essaient d'exercer le pouvoir. Par exemple, le système babylonien a essayé d'exercer le pouvoir par le biais de 120 satrapes. Ils l'ont défini comme étant 127, mais il y avait en fait 7 commandants régionaux et 120 satrapes. Ils ont essayé d'imiter le royaume de Dieu, parce que le groupe des 120 est l'étape au-dessous des 70. C'était Satan qui essayait d'imiter la forme physique sur la planète du royaume et du gouvernement de Dieu. À la fin, cela sera 144 000, et ceux-ci seront des administrateurs. Sous eux se trouvera la grande multitude, et ceux qui la composent administreront à leur tour leurs éléments clés, c'est-à-dire ceux qui seront rois et prêtres, sacrificateurs sur la terre. Voir le gouvernement de Dieu, numéro 174. Ensuite, la race humaine entière sera sous ce système. La race humaine sera alors jointe aux anges, et ils deviendront la cité, qui sera alors administrée par ses rois et ses sacrificateurs, ses prêtres, des milliards d'entre eux. Nous participerons à toutes ces activités et nous nous verrons attribuer nos responsabilités directes et nous recevrons des rôles à jouer en tant que roi et prêtre, entre parenthèses sacrificateurs, dans ce système. On nous donnera des multitudes de personnes à nous occuper, entre parenthèses surveiller, et ce à différents endroits dans la structure de l'administration, non seulement au cours du millénium et pas seulement l'armée humaine, mais nous serons aussi intégrés à l'armée loyale des forces célestes des anges. Ils sont nos frères. Nous verrons Michel, Michael, Gabriel, Raphaël et tous les autres anges. Nous traiterons avec eux et nous serons sur un pied d'égalité avec eux. Nous aurons accès à l'histoire humaine et à la compréhension humaine et au mystère de Dieu que nous comprendrons. L'armée céleste apprend présentement les mystères de Dieu par notre entremise et elle aspire à bien connaître l'avenir que l'on nous donne de comprendre, voir 1 Pierre 1, verset 12. Dieu ne leur a pas encore tout révélé, ni à eux, ni à nous d'ailleurs. À mesure que Dieu nous révèle quelque chose, cela leur est révélé, Dieu leur expose ses mystères par notre entremise, et ce, afin qu'ils voient la sagesse de Dieu, car c'est seulement de cette manière qu'ils exercent aussi la foi. Nous devons exercer la foi parce que nous ne voyons pas, mais ils doivent aussi exercer la foi du fait qu'ils voient beaucoup plus que nous. Nous voyons à travers un verre obscur, comme le dit Paul, mais ils ne savent pas quel sera le résultat final, et ils sont engagés dans une guerre. Ils comptent sur Dieu pour la révélation de certains des mystères, à mesure qu'ils sont révélés en l'Esprit Saint et transmis dans l'Église. Voir le document d'étude Les Mystères de Dieu, numéro 151. Durant les derniers jours, le plan et les mystères de Dieu seront mis en évidence, et les églises et les airs seront achevés, et les mystères seront alors rendus compréhensibles. Comme le dit Jérémie, durant les derniers jours, nous le comprendrons pleinement. Tout sera dévoilé, de sorte que les prêtres, entre parenthèses sacrificateurs, comprennent aussi où ils se sont trompés. Mais les anges exercent donc la foi en attendant que les mystères soient expliqués, entre parenthèses exposés, non pas par eux, mais par nous. Cela exige de l'humilité, et Satan ne pouvait pas exercer cette humilité. Michael le pouvait. De même que Christ et Gabriel. Ils ont dû attendre et écouter des humains vils et faibles publier, exposer un mystère de Dieu, pour qu'ils puissent alors comprendre l'étape suivante du développement. Cela demande de l'humilité. Satan ne pouvait pas faire cela. Ce que nous pouvons voir de là, c'est que Dieu place tous les individus dans différents endroits dans le royaume. Celui qui est le premier sera le dernier. Il y a beaucoup de gens qui se pensent justes et qui pensaient qu'ils étaient importants dans le royaume de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient des chefs ambitieux, mais ils ne vont pas être des chefs ambitieux dans le royaume. Cette pensée nous aide à nous tenir sur nos gardes. Cette position nous dit que nous savons que nous n'avons rien après quoi nous accrocher spirituellement. Les gens qui se pensent très bons ont en fait invariablement des ennuis, parce qu'ils développent une attitude pharisaïque, c'est-à-dire d'être juste à leurs propres yeux. Ils commencent à regarder de haut, entre parenthèses à mépriser les frères, et à développer la doctrine des Nicolaïtes. Dieu déteste cette doctrine, parce qu'elle cherche à séparer les ministres des laïcs, et qu'elle établit un concept de ministre supérieur aux laïcs, ce qui est totalement anti-biblique. Ainsi, cette déclaration, citation, « Celui qui est le premier sera plus tard le dernier », nous rappelle que nous avons une responsabilité et que nous devons faire attention, de peur que nous ne tombions. Voir le document d'étude des Nicolaïtes, numéro 202. Les femmes assumeront de grands rôles dans le pouvoir, la responsabilité et l'autorité. Certaines régneront sur un grand nombre d'hommes jadis. Beaucoup d'hommes seront mortifiés et humiliés lorsqu'ils se rendront compte de la façon dont ils ont traité les femmes. Quand cela arrivera, ils devront se repentir et on leur montrera pourquoi ils sont dans le royaume. Cela deviendra évident la raison pour laquelle ces femmes règnent sur eux. C'est parce qu'elles sont spirituellement plus fortes. Et ce n'est pas un accident que beaucoup de femmes comprennent ce fait. Il y a beaucoup de femmes spirituellement fortes dans l'Église dans les derniers jours. Sur une base proportionnelle, on pourrait constater qu'il y a davantage de femmes qui sont plus fortes que les hommes parmi les élus, et ce précisément parce qu'elles ont dû supporter, endurer davantage, et qu'elles ont été plus endurcies par les épreuves ou exposées aux difficultés. Elles ont une vue moindre de leur propre importance. Et quand nous entrerons dans les derniers jours et dans la tribulation, ce sera un atout et non un handicap. Il y a toutes sortes de choses qui arriveront dans le royaume. Notre responsabilité est de préparer tous ceux qui sont donnés à cette Église, et ce afin que nous prenions tous notre responsabilité dans le royaume éternel de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Cela inclut ou s'applique autant les hommes que les femmes. C'est la raison pour laquelle les femmes devront étudier et jouer un rôle dans la transmission de l'autorité de l'Église. Nous ne pouvons pas recevoir de l'autorité ou habilité en demeurant dans un état d'abêtissement ou d'insouciance. C'est la raison pour laquelle le système a dû être détruit en ce siècle-ci et qu'un nouveau système devait être créé. Nous devons nous donner les moyens de nous renforcer mutuellement dans la foi pour devenir plus forts dans la foi, et ce afin d'être utilisés dans la foi. Chacun est en mesure de contribuer même si nous pensons être simples, pauvres, ou non doués, ou sans talent. Chacun peut voir un besoin dans l'Église et accomplir ou peut remplir un certain aspect de nos exigences pour publier ou faire passer ce message. Plus nous le publions, diffusons, plus les gens sont responsabilisés et comprennent la vision du royaume. C'est une vision puissante et une vision d'espoir. L'abêtissement qui la limite vient de Satan. La doctrine des Nicolaïtes est le facteur principal dans ce processus qui retient les gens et limite leur capacité. Nous n'avons aucune capacité du tout si nous allons dans une église et sommes assis derrière un autel et si nous marmonnons des répétitions vaines et sans signification de prière, comme les païens le font. Ce n'est pas ça le pouvoir. De la sorte, nous ne sommes pas équipés pour faire quelque chose. Nous devons être équipés pour faire quelque chose, et ce, afin d'accomplir ou de remplir notre tâche. En tant qu'esprit, nous irons au dîner de noces de l'agneau avec l'armée spirituelle. Tous sont préparés pour être épousés sous Jésus-Christ, et ce, afin que tous soient ensuite remis à Dieu. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Version du second. Ainsi, l'habitation ou demeure de Dieu est avec les hommes. Il ne s'agit pas seulement du Messie qui apporte l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui vient habiter avec les hommes dans les hommes. Dieu enlève simplement toute angoisse et toute douleur. Tous les problèmes qui ont affligé l'humanité et tout concept entier de la mort, de fragilité et de faiblesse sont simplement enlevés. Ils seront une chose du passé. Ces choses ne nous causeront plus d'angoisse. Dieu donnera le pouvoir de faire en sorte que ces choses ne seront plus rappelées dans la détresse mentale. Tous seront réhabilités mentalement et physiquement. Ils deviendront des êtres spirituels, mais leur mémoire spirituelle et leurs entités spirituelles seront intactes. Il n'y aura pas de processus de pensée altéré par les souvenirs du passé. Toutes ces choses seront faites quand Dieu viendra ici. Quand Jésus-Christ viendra ici, Dieu ne sera pas encore ici, sauf par la puissance de l'Esprit-Saint. Dieu ne peut pas venir tant que tout ne soit soumis, car Dieu est saint et ne sera pas contaminé par le mal, et la rébellion est le mal. Dieu ferait en sorte que cette planète cesse d'exister si elle n'était pas capable de vaincre. Ce n'est pas le plan de Dieu que cette planète soit détruite. Mais si nécessaire, si nous sommes incapables de vaincre, ou si ce n'est pas fait, alors Dieu n'aurait aucun autre choix que de détruire cette planète. Mais cela n'arrivera pas. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ses paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Version du second. Nous parlons de Dieu ici, qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y avait aucun elle qui existait. Aucun Dieu n'était avant lui et aucun Dieu n'est après lui. Il n'y avait aucun elle avec lui avant le début de la création. Lui seul est le seul véritable Dieu, de Jean 17, verset 3. Voir le document d'étude « L'arché de la création de Dieu en tant qu'alpha et oméga » numéro 229. Nous deviendrons tous des fils de Dieu en puissance après notre résurrection d'entre les morts, comme Jésus-Christ est devenu un fils de Dieu en puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts. Entre parenthèses, comme nous le comprenons selon Romains 1, verset 4, c'est Dieu qui parle par l'entremise de Jésus-Christ. Dieu est le commencement et la fin. Dieu a créé Jésus-Christ en tant que le commencement de la création et le résultat final de celle-ci. Colossiens 1, verset 16. Cependant, Dieu est le commencement dans le sens que Dieu a créé Christ et Dieu a créé les Elohim et l'armée et tout le reste. Par sa volonté, toutes choses existent et ont été créées. Voir Apocalypse 4, verset 11. Aussi, Dieu est l'oméga dans le sens que, à travers l'Esprit-Saint, Dieu deviendra tout en tous, et nous deviendrons tous des Elohim, comme l'ange de Jéhovah à notre tête. Voir Zacharie 12, verset 8. l'ange est Jésus-Christ à notre tête, qui est l'Élohim de notre peuple, voir l'ange de YHVH, numéro 024. Nous recevrons le pouvoir de Dieu à travers l'Esprit Saint. Nous existerons tous comme une construction solide, car l'Esprit Saint est cet aspect de Dieu qui nous tient tous ensemble comme le mortier lie les briques. C'est ainsi que nous pouvons être un seul et même édifice. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement, voir le verset 6, et le concept de l'Esprit Saint. Voir le document d'étude l'Esprit Saint, numéro 117. Cette fontaine vient à tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Le terme « mon fils » au verset 7 indique que nous serons comme l'armée céleste. Les chapitres 1 et 38 de Job montrent que Dieu a déjà de nombreux fils, mais nous serons inclus dans le groupe générique des fils de Dieu, comme les anges et les archanges. Jésus-Christ n'est pas le seul fils de Dieu. Il y en a plusieurs. Nous serons des fils de Dieu, comme ceux qui composent l'armée céleste sont des fils de Dieu. Voir le document d'étude « Comment Dieu devint une famille » numéro 187. Nous poursuivons verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Version 8 seconde. Ceci s'applique si nous ne surmontons pas ces problèmes lors de la première et de la deuxième résurrection. L'Église est pleine de ces gens qui sont appelés à sortir de ces situations. Nous sommes tous appelés à surmonter ces situations, et ce, afin d'être un exemple pour les autres qui sont jugés selon ces standards, ces normes. Dieu ne s'occupe pas de ces choses d'une manière injuste. Dieu appelle les gens et leur donne ensuite le pouvoir de surmonter pour montrer que ces choses peuvent être surmontées. Voir le document d'étude de la résurrection des morts, numéro 143. Nous poursuivons verset 9. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Version 8 secondes. Ainsi, les 12 portes sont donc les noms des 12 tribus d'Israël, et les juges des 12 tribus sont les fondations de la cité. 12 niveaux, 12 fondations correspondant à chacun des 12 apôtres. Bien qu'ils soient des juges, vous remarquerez qu'ils ne sont pas au-dessus des tribus. Ils sont placés en dessous d'elles, pour qu'elles puissent s'appuyer sur eux. Israël se tient sur les 12 apôtres, en tant que les fondations, l'une sur l'autre, de la cité de Dieu. Ainsi, ces apôtres ne sont donc pas comme les païens, où les seigneurs règnent sur eux, mais ils sont en fait semblables à Christ qui sert. Cela est une fonction du leadership de l'Esprit-Saint. Il s'agit donc d'une pyramide inversée, pas d'une pyramide. Ce n'est pas une hiérarchie, mais c'est une base afin que chacun, par son service, puisse devenir la base et la fondation de ceux qu'il sert. C'est cela notre leadership. C'est de cette façon que nous devons accomplir, c'est-à-dire en donnant notre vie les uns pour les autres. Les 12 apôtres obtiennent une place de direction dans le conseil intérieur des Elohim, dans la restauration de la Nouvelle Jérusalem et de l'armée céleste. Les rangs intégrés sont tels que le remplacement de l'armée déchue est effectué à partir des humains. Ces derniers sont intégrés et le nouvel ordre de gouvernement prend ses positions dans la cité. Cette cité est un édifice spirituel. Nous formons une partie de cette cité et l'armée céleste forme l'autre partie. Vu que nous sommes le temple de Dieu, alors ces humains sont aussi la cité de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes la partie intérieure, le Saint des Saints, mais tous forment cette cité. Certains ne comprennent pas les dimensions, suggérant qu'elles soient physiquement de 2400 km ou 1500 miles de haut. La plupart des gens réduisent ces puissants concepts en termes physiques afin de pouvoir restreindre Dieu dans quelque chose qu'ils peuvent ensuite rejeter. C'est ce que les trinitaires cherchent à faire. et c'est ainsi qu'ils rendent Dieu insignifiant. Ils élèvent et placent Christ en tant que le nouvel être coégal et coéternel, et ce, afin que les lois de Dieu puissent être rejetées. Lorsque nous parlons de l'Esprit Saint à ce sujet, et que nous disons que Dieu est tout pour tout, au lieu de tout en tous, et que nous envisageons en termes de dimension physique, nous perdons de vue le royaume. Nous ne pouvons pas obtenir ces concepts au sein du trinitarisme. C'est la raison pour laquelle le trinitarisme confine ou limite tout ce que nous sommes et faisons. C'est un concept démoniaque qui vise à réduire nos capacités finales. Voir le document d'étude du binitarisme et du trinitarisme, numéro 076. Au verset 15, nous lisons « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. » Version du second. Un homme et un ange sont ici synonymes. C'est d'un mesurage angélique dont il est question. C'est une mesure spirituelle. Nous poursuivons verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Version du second. Les concepts des 12 pierres précieuses ont une signification spirituelle. Nous poursuivons verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Version du second. Nous n'avons vu aucun temple parce que nous formons le temple en tant qu'édifice spirituel. La cité n'a aucun besoin du soleil ou de la lune parce que la lumière de l'agneau est sa lumière. Nous cessons alors d'être le temple intérieur, mais nous devenons la cité de la Nouvelle Jérusalem. Elle devient l'ensemble des fils de Dieu. Cependant, nous en avons formé la base. Le temple cesse d'être évident et devient une partie de la cité parce que l'administration des élus en tant que dirigeants de la cité entière cesse d'être distincte de la cité elle-même. Elle s'est élargie et Dieu et Christ en sont devenus le moyeu, le centre ou un noyau. L'Esprit Saint opère en chacun dans toute la cité. Le temple est étendu. Au lieu d'être un bâtiment distinct dans la cité, les leaders de la cité entière sont en réalité le dépôt de l'Esprit de Dieu. Ainsi, le temple qui est le dépôt de l'Esprit est alors étendu afin que la cité entière devienne le dépôt de l'Esprit. L'administration centrale qui fait partie de la cité est toujours les fils de Dieu, soit l'élément clé central à travers lequel Dieu dirige sa création. Ce n'est pas fait de la même façon que les païens dirigent leur nation. Ce n'est pas un système hiérarchique dans lequel un groupe doit dire à un autre ce qu'il doit faire. Nous sommes regroupés, organisés en familles qui sont toutes gouvernées directement par Dieu. C'est un concept difficile à comprendre parce que nous pensons en termes de hiérarchie. Il s'agit d'une relation un à un, individuelle, avec Christ et Dieu. Le chef de chaque homme est Christ et le chef de Christ est Dieu. Voir 1 Corinthiens 11, verset 3. Un saut s'est produit dans le processus de la manière dont les gens voient leur relation avec Dieu. Au lieu du temple, nous avons maintenant une extension du temple où l'Esprit s'étend dans toute la ville. Après avoir été le temple, nous passons du statut de temple à celui de cité et nous sommes intégrés dans une structure plus grande. Dieu comble le vide et prend et devient tout en tous. De là, nous aboutissons à un processus d'un centre intérieur qui lie ensemble toute la cité entière. Dieu est la cité parce qu'il est en nous par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. La gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Version du second. Il s'agit du processus par lequel les nations sont amenées à la capacité spirituelle, sont sauvées et ensuite incorporées à la cité. Il ne fait aucun doute que les païens héritent du royaume de Dieu à travers la Nouvelle Jérusalem. Les portes de la cité sont les perles de la sagesse de l'évangile du royaume de Dieu, telles qu'administrées à travers les 12 apôtres. Ce ne sont pas des perles physiques. Le symbolisme est entièrement spirituel. Voyons maintenant l'administration. Nous lisons dans Apocalypse 22, versets 1 à 5. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Version du second. Dieu est réconcilié avec nous et les élus partagent l'administration. Christ est assis dans la chambre, la salle du trône, et nous partageons ce trône. Nous partageons cette responsabilité et cette autorité. La promesse donnée à l'église de Laodicée, pour ceux qui vaincront dans cette église, est dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, versets 21 à 22, nous lisons « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous serons assis sur le trône de Jésus-Christ comme Jésus-Christ est assis sur le trône de Dieu. Ainsi Dieu deviendra tout et nous partagerons tous cette unique responsabilité administrative. Ce sera un système très puissant. Cette position de remise à Dieu ne diminuera pas notre pouvoir, mais au contraire, l'augmentera, car l'administration sera centralisée sur la terre avec toute l'armée céleste se joignant à nous, ici. Nous sommes en fait augmentés, élevés en puissance par le déplacement de l'administration et notre intégration avec les systèmes angéliques. Les archanges seront intégrés aux apôtres qui deviendront eux-mêmes des archanges. Nous avons le concept des 3 et des 30. La transfiguration de Jésus-Christ avec Moïse et Élie à ses côtés produit un noyau intérieur du conseil des Elohim. C'est la raison pour laquelle, à Exode 7 et Exode 4, Dieu a dit à Moïse « Je ferai de toi un Elohim ». Dieu a fait de lui un Dieu pour Aaron et un Dieu pour Pharaon. Dieu n'a pas dit « Je ferai de toi un juge ». Dieu a dit « Je ferai de toi un Dieu ». Le même mot qui est utilisé à propos de lui-même et du conseil des Elohim. Ces gens deviendront des êtres puissants sur le plan administratif. C'est la raison pour laquelle il y a 2 chérubins, un de chaque côté du siège, entre parenthèses, du propitiatoire, de la miséricorde dans le temple. Ils représentent les 2 appuis de l'organe ou corps central de gouvernement. Moïse et Élie sont les 2 appuis du corps central de gouvernement, puis ce conseil descend à 12 avec les 12 apôtres, puis 12 avec les juges. Et il continue jusqu'au 70, etc. Ce sont de pouvoirs réels, pas seulement des termes descriptifs. Ils sont là pour nous donner une idée de la destinée de notre peuple. À la résurrection des morts, ils recevront leur pouvoir et leur autorité, mais ils réaliseront leur plein pouvoir ou puissance et leur pleine autorité lorsque ce royaume sera remis à Dieu. Vu que nous procédons, nous recevrons une responsabilité dans le millénium, et nous l'accomplirons. Puis on nous donnera une responsabilité dans la résurrection, et nous l'accomplirons. On nous donnera ensuite une responsabilité quand nous serons finalement réconciliés avec l'armée. Il y a 3 niveaux en tant qu'être spirituel. Cela se poursuit ensuite dans l'univers. L'administration continuera parce que notre but dans la vie et dans la création n'est pas le millénium. Le millénium n'est pas le but. Et l'objectif de notre appel, c'est simplement le véhicule par lequel nous corrigerons l'humanité et jugerons l'armée déchue. Il s'agit d'une période du jour du Seigneur, et ce jour dure 1000 ans. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Voir 2 Pierre 3, verset 8. Le jour du Seigneur a une durée de 1000 ans dans son but et son intention, et il se termine par la résurrection des morts qui dure 100 ans. Voir le document d'étude, le Jubilé d'or et le millénium, numéro 300. Le jour du Seigneur englobe l'établissement du royaume, le règne millénaire, la résurrection des morts, et ensuite la réconciliation. Il s'agit d'une période prolongée de 1000 ans de gouvernement juste. Le processus n'est pas seulement cette période en soi. Les 1000 ans ne sont qu'un outil d'enseignement. Le but en soi de l'espèce humaine et de l'armée angélique n'a même pas été déclaré. Notre destinée est de gouverner les étoiles. Il y a des sections dans la Bible qui traitent du concept de notre destinée, qui est de gouverner les étoiles, de recréer la structure administrative et de nous occuper de l'univers dans un nouvel ordre. On nous donnera le pouvoir de créer, de la même manière que les Elohim avaient le pouvoir de création. Il y a un passage bien caché du Pentateuque qui n'est pas écrit ici, ainsi que dans Psaume 8 et Daniel 2. Nous allons lire Psaume 8, verset 1-9. Au chef des chantres, sur la guitite, Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voir le document d'étude, Psaume 8, numéro 014. Dans la famille des Elohim, nous recevrons du pouvoir en tant que fils de Dieu et nous partagerons la puissance de Dieu. La version King James de la Bible l'a traduit un peu inférieur aux anges. Cependant, le texte hébreu dit un peu inférieur à Dieu. Voir la version RSV. Ce qui est Elohim, la Septante le traduit par les anges. Ainsi, ces versions de la Bible voient donc que nous avons affaire aux anges en tant qu'Elohim. L'hébreu semble dire que le Fils de l'homme est à peine inférieur aux Elohim. Voir la Bible Green Interlinear Bible. Nous poursuivons verset 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Version du second. Ce concept est celui de la terre, toute l'œuvre des mains de Dieu, placée sous l'homme. Nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Version du second. Il semble que ce travail produit un concept selon lequel nous devrons prendre en main un système qui dépasse ou transcende la création physique. Ce point a besoin d'être étudié davantage pour développer ce concept. Nous lisons dans Daniel 2, verset 44 à 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Version du second. Apparemment, le concept de rupture de tous les royaumes inclut la structure administrative de l'armée céleste et la réorganisation de cette structure. Par nécessité, cela signifie qu'il doit s'agir d'un système nouvellement ordonné. Cela doit inclure les étoiles. Par la création de nouveaux cieux et de nouvelles terres, cela signifie qu'il y aura un moyen de réguler ce système. On ne nous a pas dit exactement comment nous allons le faire. La Bible n'est pas claire sur ce que nous allons faire au cours du millénium, si ce n'est que nous serons établis dans le gouvernement et l'autorité, étant donné que ces choses vont se produire. Entre parenthèses, les références en rapport à l'univers se trouvent à Daniel 7, verset 27 et chapitre 12, verset 3. Nous lisons dans Daniel chapitre 7, verset 27. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Leur royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs les serviront et leur obéiront. Traduction de la RSV. Toutes les dominations sous tous les cieux nous montrent que cela transcende la terre. Cela ne parle pas de toutes les dominations sur la terre, mais de toutes les dominations sous tous les cieux, tout entier. Le processus de réordonner, entre parenthèses, réorganiser l'administration nous donne, par défaut et par le fait même, le pouvoir de création. Les choses qui ont été faites par les Elohim ici sont vues par nous afin que nous puissions justement exécuter la capacité créatrice appropriée. La raison pour laquelle on nous permet à vivre tout cela sur la terre et de nous préparer à une fonction dans l'avenir afin que nous ne la détruisons pas. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions passer par là maintenant, à moins que nous ne soyons préparés pour l'avenir. On pourrait dire que l'une des raisons de le faire est pour que nous regardions en arrière et ne désirions pas une autre rébellion. Cette création ne sera plus dans nos pensées, ne nous viendra plus à l'esprit. Les choses de cette vie ne seront plus jamais rappelées à notre esprit, mais ce n'est pas seulement pour nous éviter une nouvelle rébellion, car nous ne regarderons plus en arrière. Nous ne nous en souviendrons plus. Il doit donc y avoir une raison pour laquelle nous avons été soumis à ce processus de perfection. Ce doit être pour exercer un pouvoir sur l'univers ordonné dans le futur. Il ne semble pas y avoir d'autre raison pour laquelle on produirait cette séquence de vie et de correction et permettrait à cette sorte de mal de se produire, sauf que nous étions perfectionnés pour un autre travail dans le futur. Ceci est une école de formation. Nous sommes actuellement entraînés, formés pour quelque chose. Nous ne pouvons voir qu'à travers un verre opaque. Quand nous verrons Dieu face à face, nous commencerons à comprendre ce que nous devons faire. La fonction entière est résumée dans Apocalypse 22, verset 6, où nous lisons. « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Il y a un ange qui nous délivre dans les derniers jours, immédiatement avant l'avènement du Messie, un message de ce qui doit se passer. Cette inspiration nous est donnée durant les derniers jours, et Christ vient bientôt. Verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Adorer Dieu, il est l'objet de l'adoration. Le processus final est l'adoration de Dieu. Entre parenthèses, voir le document d'étude « Le Dieu que nous adorons » numéro 002. Nous poursuivons verset 10, et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Les paroles de ce livre n'ont pas été scellées car l'heure était proche. Ce n'était pas un livre fermé. Nous étions censés le comprendre. Le verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Version du second. Le concept est que Dieu, en tant que l'alpha et l'oméga, délègue sa responsabilité, ses titres et son autorité à Christ et à l'armée. En tant que péché, le mensonge est placé au même titre que le pire des crimes. Nous ne pouvons pas pervertir la vérité et hériter le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu punit les prêtres, sacrificateurs et les prophètes qui mentent, parce qu'ils sont dans des positions où ils ne devraient pas le faire. C'est fondamental. La vérité est centrale au sacerdoce et à la prophétie. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, versets 16 à 20. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Version du second. Il s'agit de Jésus-Christ qui s'identifie lui-même comme étant l'ange qui a porté le message. Et au verset 18, nous lisons « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen.
Viens, Seigneur Jésus. »
Version du second. Fin de la lecture de l'étude « Le royaume éternel, le Dieu » numéro 144.